La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Heureux de vous retrouver, chers amis, pour cette émission, la prédication protestante, sur cette radio qui vous accueille, Radio Présence. Nous sommes heureux d'être ensemble avec vous. Je me présente, je suis le pasteur Laurent Lenoir. Je sers Dieu dans l'église Espoir et Vie, Assemblée de Dieu, de la ville de Groyer, dans le Tarn. Ce matin, je voudrais vous proposer un texte. Alors, je vais placer tout ça dans son contexte. On ne va pas lire les versets pour gagner du temps. C'est un texte qui se trouve dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, du verset 26 au verset 33. Donc, si vous avez votre Bible à côté de vous, c'est parfait. Sinon, je vais, pour les autres, placer tout cela dans ces quelques versets, finalement, dans le contexte. Le contexte nous montre que c'est le moment pour les enfants d'Israël d'explorer le pays de la promesse, ce pays qui avait été promis préalablement par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est le moment pour le peuple d'Israël, pour le peuple hébreu qui est donc sorti de l'esclavage de l'Égypte, de rentrer dans ce pays de la promesse, le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, pour reprendre les points précis de l'Écriture. Alors, bien entendu, il va y avoir un Hébreu correspondant à une tribu. Il y a 12 tribus en Israël, il va y avoir 12 hommes représentant chacun leur tribu, qui vont donc explorer ce pays de Canaan. Et quand ils y arrivent, ils constatent, alors je passe tous les détails, mais ils vont constater beaucoup de choses, et entre autres, effectivement, que c'est un pays où coule le lait et le miel, et en même temps, ils vont constater que ce pays est habité par des hommes, des femmes, mais qui ont une taille importante. Ils vont appeler ces gens-là des géants, finalement, et ils vont revenir vers Moïse et ils vont faire leur rapport auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et donc, lorsqu'ils vont montrer les fruits du pays, alors là, tout le monde se réjouit, bien entendu, et puis, ils vont raconter que dans ce pays, c'est un pays, en effet, où coule le lait et le miel, mais ils vont rajouter que le peuple qui habite ce pays, eh bien, il est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes, et puis, disent-ils, voilà, nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites habitent la contrée du Midi, d'autres peuples habitent donc vers la montagne, et un autre peuple, les Cananéens, habite près de la mer et le long du Jourdain. Et finalement, ils vont choisir un chemin. C'est-à-dire que beaucoup de ces espions, au nombre de 10, je vous rappelle qu'ils étaient 12, au nombre de 10, vont choisir un chemin et essayer d'entraîner le peuple d'Israël, voire même de rallier à leur cause Moïse et Aaron, pour suivre leur chemin que je vais appeler le chemin de l'incrédulité. Et puis, vous en avez deux autres, dans donc le nombre de ces 12, c'est Caleb et Josué qui, eux, choisissent un autre chemin dans leur explication, dans leur démarche de foi. Et je vais appeler justement ce chemin le chemin de la foi. Un chemin d'incrédulité qui va les éloigner de la promesse de Dieu, d'un endroit de bénédiction, d'un endroit agréable, d'un endroit où il y a la vie, et puis deux autres, Caleb et Josué, qui eux, choisissent de rester confiants en Dieu puisqu'il a fait des promesses, et quels que soient les peuples qui habitent ce pays, que ce soit des enfants d'Anak, des gens qui sont assez forts, bien équipés, sur le plan militaire, sur le plan matériel, peu importe, que il y ait tout cela, Caleb et Josué choisissent de rester dans la foi. Finalement, ce texte m'amène à vous interpeller, chers amis, dans le sens que c'est aujourd'hui la même chose. C'est-à-dire que il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Et je voudrais de suite vous encourager, bien entendu, c'est de choisir le chemin de la vie, le chemin de la confiance en Dieu. Même si tout en apparence, devant vous, chez vous, au milieu de vous, se trouve être contre vous, peut-être même apparemment plus fort que vous. Peut-être quelque chose qui vous dépasse et qui vous bloque intérieurement, vous verrouille spirituellement et vous amène finalement à vous dire, mais pourquoi croire en Dieu? Mais mes amis, croire en Dieu change tout. Croire en Christ change tout dans notre vie. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que finalement, Dieu va le rappeler au peuple d'Israël bien plus tard dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, toujours dans votre Bible, et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, à un moment donné, Dieu dit à Israël, par la bouche de Moïse, eh bien, j'ai mis devant vous la mort et la vie. D'accord? Et quand Moïse dit cela au peuple d'Israël, il leur rappelle finalement, en quelque sorte, la situation que je suis en train de souligner au travers du livre du Nombre, chapitre 13, quand ces 12 hommes vont voir ce pays et qu'il n'y en a que deux qui vont choisir le chemin de la vie et de la foi, donc Caleb et Josué. J'ai mis devant toi la mort et la vie, le bien et le mal. Choisis la vie, choisis le bien, choisis ce qu'il y a de meilleur afin que tu vives, toi et tes enfants, toi et ta maison, de la vie de Dieu qui se trouve pleinement manifestée en Jésus-Christ, qui est ressuscité et qui est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Je reviens sur ces 10 hommes qui, finalement, dans le rapport auprès de Moïse et d'Aaron, sont en train de présenter, j'insiste, bien entendu, le chemin, finalement, le choix qui est le leur, qui est le chemin de la mort, de l'incrédulité. Ils l'ont choisi. Le chemin de l'incrédulité, qui fait que des murmures viennent du cœur, rend défaitiste, décourage les autres, décrit finalement tout en négatif, déforme, fait douter. C'est terrible. Car quand nous regardons au chapitre 13 du livre des Nombres et le verset 32, c'est ce que nous remarquons. Qu'est-ce qu'ils font, ces 10 hommes? Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils décrièrent. Le verbe décrier signifie dénoncer quelque chose, ou parfois même quelqu'un, comme mauvais, méprisable, qui est critiqué, qui est dénigré. Ça va même bien plus loin que ça. C'est rabaisser la réputation de quelqu'un ou de quelque chose. C'est exactement là ce que font ces 10 hommes, ces 10 Hébreux, auprès de Moïse, d'Aaron et du peuple. Ils méprisent. Ils disent que c'est mauvais, ils critiquent, ils dénigrent, ils rabaissent la réputation finalement de la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël d'entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Pourtant, ne le disent-ils pas auparavant? Pourtant, n'ont-ils pas ramené des preuves Bien entendu, avec cette grappe de raisin qui était très très importante, immense. Je ne pense pas qu'on puisse trouver aujourd'hui dans nos vignes des grappes de cette grosseur, puisqu'il fallait être à deux au moyen d'une perche pour porter cette grappe de raisin. Ça vous laisse supposer la grosseur de cette grappe, le poids qu'elle devait peser. Puis il y avait des grenades, des figues, etc. Donc, ils vont ramener des preuves. Et malgré les preuves, malgré la réalité manifestée devant leurs yeux des promesses de Dieu par rapport à ce pays, pour sortir du désert dans lequel ils se trouvent, eh bien, ils vont dire non. Non, 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 non. N'y allons pas, parce que c'est dangereux, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, parce qu'ils sont plus forts que nous, parce que finalement, on n'y arrivera pas. Non, tout ça, c'est de la supercherie. Dieu veut que nous mourions dans ce pays. Ils sont en train, j'insiste, hein, ils sont en train effectivement de décrier ce pays, cette promesse, pourtant, qui est chargée de bénédictions. Le chemin de la mort. Finalement, il y a quoi chez ces hommes? Et ils transmettent quoi? Un aveuglement spirituel. La Bible dit que l'homme charnel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Un jour, un ami non chrétien a dit ceci: j'ai lu la Bible, mais je ne la comprends pas. Mais finalement, ce qu'il dit, cet homme, n'est pas nouveau. Les gens, les hommes, les femmes qui nous entourent et qui sont pour l'instant non chrétiens, non convertis, qui ne se sont pas encore tournés vers Christ pour croire en lui comme Sauveur et Seigneur. Même s'ils sont très instruits, tant mieux. Même s'ils ont du succès dans leurs entreprises, tant mieux. Mais ils n'arrivent pas, malgré tout, à comprendre les vérités de l'Évangile. William Pitt, un des meilleurs hommes d'État de l'histoire d'Angleterre, est devenu Premier ministre à l'âge de 24 ans. Et un homme qui était chrétien, du nom de William Wilberforce, a convaincu William Pitt d'assister à une réunion où un membre de la Chambre des Lords a proclamé l'évangile de Jésus-Christ avec puissance. Et après la réunion, Wilberforce demande à William Pitt ce qu'il pensait du message. Et William Pitt, je vous rappelle, 24 ans, Premier ministre d'Angleterre, donc quelqu'un de très intelligent, bien entendu, dit: mais finalement, pour tout vous dire, Wilberforce, j'ai écouté le message de l'évangile de cet homme avec la plus grande attention, du début à la fin, mais j'étais totalement incapable, incapable de comprendre le propos de son discours. Donc on comprend ici que l'instruction, la culture, une connaissance approfondie de la politique, du commerce, et j'en passe, sont peut-être très importants, mais ne sont d'aucune utilité pour comprendre l'évangile. Ce n'est que quand les hommes placent leur foi en Jésus-Christ, qu'ils deviennent enfants de Dieu, que les ténèbres spirituelles sont chassées de leur cœur et de leur esprit, et alors que le miracle, je peux l'appeler ainsi, de la nouvelle naissance va ouvrir les yeux qui étaient auparavant fermés aux enseignements de la Bible, à ce moment-là, au moment de cette nouvelle naissance intérieure, produite par la foi en Jésus-Christ, l'acceptation de Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie, alors que le Saint-Esprit élit, pardon, domicile chez celui qui croit, il procure la vie et la lumière. C'est quand nous ouvrons notre cœur au Sauveur, à Dieu, à l'Éternel, à Jésus-Christ, que Dieu le Père ouvre notre esprit à sa parole. Chers amis, il faut comprendre qu'un tel chemin, chemin d'aveuglement, chemin de mort, chemin d'incrédulité, eh bien, c'est un chemin qui va nous éloigner de Dieu. Il est bien entendu, ce chemin-là, désagréable à Dieu. Il nous fait passer à côté de la bénédiction de Dieu, pourtant qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Chers amis, il y a mieux pour vous aujourd'hui. Si vous êtes sur ce chemin de la mort, si vous êtes sur le chemin de l'incrédulité, sur le chemin de l'aveuglement spirituel, sur ce chemin que je viens souligné comme étant extrêmement mauvais, ben quittez-le. Ça ne dépend que de vous. Pour rentrer dans le chemin que Caleb et Josué, eux, ont choisi, le chemin de la vie, ils l'ont choisi. C'est le chemin, bien entendu, non pas de l'incrédulité, mais c'est le chemin de la foi, le chemin de la confiance dans les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Ça vient de lui, ça vient de sa parole. Et que fait ce chemin de la vie? Il nous amène donc à regarder à Jésus, croire tout ce que Jésus dit, que rien n'est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous, quand Josué et Caleb, tous deux, s'opposent à l'opinion majoritaire, sont 10 des espions, en fondant leur rapport, Caleb et Josué, sur un solide engagement envers Dieu, une pleine confiance dans les promesses de Dieu à l'égard d'Israël, ils refusent de se rallier à la décision écrasante du peuple de Dieu, même au péril de leur vie. Et cet événement qui est crucial du voyage d'Israël dans le désert nous enseigne que nous ne devons pas tenir pour acquis que l'opinion d'un plus grand nombre est forcément la bonne. Les chrétiens fidèles doivent être prêts à respecter la parole de Dieu, même si la majorité s'oppose à eux. Je voudrais que vous compreniez que tout se fait au fur et à mesure. Dieu est au contrôle. Vous avez peut-être dans votre propriété, si vous habitez une maison, ou peut-être proche d'un parc, si vous habitez en appartement, dans la ville dans laquelle vous résidez, il y a peut-être ces arbres que sont les chênes. Et chaque automne, on peut remarquer que certains chênes conservent leurs feuilles séchées longtemps après que les autres arbres ont perdu les leurs. Et même les vents violents de l'hiver, les premières pluies du printemps ne les font pas toutes tomber. On a pu remarquer déjà cela. Mais à mesure que le printemps avance, les choses changent. Parce que les petits bourgeons apparaissent au bout des branches et les feuilles séchées de la saison précédente tombent à cause de quoi? Bien de la vie nouvelle qui bouillonne dans l'arbre. Voyez-vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ œuvre avec la même grâce chez ceux et celles qui veulent mettre leur foi en Dieu, choisir le chemin de la vie. Les vieilles habitudes, elles veulent s'accrocher parfois avec ténacité à notre vie. Et même les épreuves et l'adversité ne parviennent pas à nous arracher de ces restes persistants de notre nature humaine déchue. Mais Jésus-Christ cherche continuellement à s'exprimer en nous. Et lorsque nous confessons nos péchés, que nous prions, que nous méditons la parole de Dieu, l'Évangile, que nous y obéissons et que nous passons du temps avec notre Seigneur Jésus-Christ béni, voyez-vous, chers amis, les œuvres mortes de la chair finissent par nous lâcher graduellement. Lorsque tous nos efforts pour arracher les vieilles feuilles, entre guillemets, s'avèrent infructueux, nous pouvons tirer une leçon du puissant chêne. En outre, nous pouvons remercier Dieu pour l'œuvre puissante que le Saint-Esprit accomplit dans ceux qui choisissent, comme Caleb et Josué, le chemin de la vie, le chemin de la foi. Lorsque nous cédons aux exhortations, donc du Saint-Esprit, de l'Évangile, donc à être aimable, doux, honnête, fidèle, le Saint-Esprit va s'occuper de toutes ces vieilles feuilles. Si Christ est au centre de notre vie, la circonférence aura soin, dirais-je, d'elle-même. Donc, pour terminer cette méditation biblique aujourd'hui, ce chemin, c'est un chemin finalement, celui de la foi, de la vie, que Josué et Caleb ont choisi. D'ailleurs, eux, ils sont entrés avec la deuxième génération dans le pays de la promesse. Ceux qui ont été dans le chemin de l'incrédulité, les 10 espions, et ceux qui les ont écoutés, c'est-à-dire la première génération, donc, eh bien, ne sont pas entrés dans le pays de Canaan. Ils ont trouvé la mort dans le désert. C'est les enfants qui sont entrés, et les petits-enfants, dans le pays de Canaan, Donc, les seuls de la première génération, j'insiste, c'est Caleb et Josué qui y sont entrés. D'accord? Parce qu'ils ont eu la foi. Mais, mes bien-aimés, mes amis, justement, c'est un chemin de grâce. C'est un chemin d'amour. C'est ce que sa parole dit. Sa main, eh bien, va l'accomplir, bien entendu. Et j'insiste, Caleb et Josué y ont marché. Ils ont trouvé la vie, l'héritage. C'est sur ce chemin que Dieu vous attend aujourd'hui. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il est écrit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors oui, aujourd'hui, engagez-vous sur ce chemin. Engagez-vous sur ce chemin de la foi et vous ferez le bon choix, celui de la vie en Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Au seuil d'une année nouvelle, nous venons à toi simplement, avec nos espoirs fragiles et ce que nous ne comprenons pas encore. Nous déposons nos joies, nos peurs, nos silences et nos combats. Tu connais le poids de nos cœurs avant même que l'on parle à voix basse. Entre tes mains, Seigneur, nous plaçons nos jours, nos heures. Guide nos pas, éclaire nos choix. Sois notre force, sois notre paix. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons cette année. Quand toute ta volonté se fasse aujourd'hui et à jamais, quand les chemins seront incertains, quand la fatigue viendra frapper, rappelle-nous que tu es là, même quand la nuit semble durer. Patience, la confiance au jour le jour, à marcher dans l'espérance, à aimer comme tu nous aimes toujours. Entre tes mains, Seigneur, nous plaçons nos jours, nos heures. Guide nos pas, éclaire nos choix, sois notre force, sois notre paix. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons cette année, quand toute ta volonté se fasse aujourd'hui et à jamais. Apprends-nous à te faire confiance quand nous ne voyons pas encore, à croire que tu fais toutes choses nouvelles, même dans ce qui semble fragile. Donne-nous un cœur humble, un esprit ouvert à ta voix, que chaque jour commence par toi et se termine dans ta paix.
Entre tes mains, Seigneur, nous plaçons nos vies entières, nos familles, nos projets, nos lendemains, nous te les confions sans détour.
Entre tes mains, Seigneur, fais de nous des témoins. Cette année soit un chemin de foi, marcher avec toi, Seigneur. Nous te confions cette année.